enfin, qui est à propos de T.S. Eliot et qui a pour titre « Du couchant des cosmogonies à la plage sauvage ». Je suis pour ma part très heureux de prononcer cette conférence sur T.S. Eliot, car j'ai longtemps détesté Mr. T.S. Eliot. En fait, pas tellement Eliot lui-même, mais disons certains Eliotiens, qui en Grande-Bretagne avaient fait de son œuvre non pas un musée, moi j'aime beaucoup les musées, dans les musées il y a des forces, il y a des puissances, et il suffit de savoir les éveiller et de les capter. Alors ils avaient fait de son œuvre non pas un musée, mais un mausolée. Un mausolée sur lequel était inscrite cette formule: classiciste en littérature, royaliste en politique, anglo-catholique en religion. Alors vous comprenez bien, enfin certains qui me connaissent un peu, qu'avec ce mausolée-là et avec cette formule, j'avais, pour dire le moins, très peu en commun. Mais, je dis tout de suite le mais, et c'est le mais qui est important, pour Eliot lui-même, parce que dès le départ, quand j'ai commencé à le connaître un peu, j'avais énormément de sympathie. Parce que très vite j'ai compris que, à la base de cette formule que je relis, classiciste en littérature, royaliste en politique, anglo-catholique en religion, à la base de cette formule, il y avait un besoin assez pathétique d'appartenir. N'oublie pas que c'était un Américain expatrié qui avait choisi l'Angleterre comme asile. Donc il y avait un besoin presque pathétique d'appartenir. Il voulait en somme, avec cette formule et avec sa manière de vivre, être plus anglais que les Anglais. Alors quoi de plus pathétique que ça, n'est-ce pas? Et puis, ça c'était ma sympathie personnelle pour Eliot. Et puis dans sa poésie, bien sûr, dans sa poésie, qui très souvent, pas toujours, exerçait sur moi une réelle fascination, dans sa poésie, il échappait, bien sûr, à ses propres formules. Lawrence Dunnell raconte une conversation avec Eliot à un moment donné, et Lawrence Dunnell lui posait des questions sur toutes ses références extrême-orientales, bouddhistes, notamment. Et il dit, écoute, tu es traversé dans les religions orientales, extrême-orientales, bouddhisme notamment, et un extrême bouddhisme même. Comment ça se fait que tu es devenu chrétien? Et Eliot répond, et c'est là le côté un peu pathétique, je me sentais seul. Et Dunnell continue sa conversation, et il dit, les références sont là, elles sont dans tes textes. Tu te contentes pas de les garder dans ta tête, de penser ainsi, tu les écris. Que pensent de toutes ces références bouddhistes tes co-religionnaires, les chrétiens anglais, les anglo-catholiques? Et T.S. Eliot répond avec cet humour que j'aime, il a dit, ils ne les ont pas encore remarqués. Alors ce qui est sûr, c'est que T.S. Eliot, et c'est pour cela qu'on parle de lui ce soir, c'est pour cela qu'une exposition est consacré à son œuvre et à sa vie ici, dans ce lieu, la Maison de la Poésie, ce qui est sûr, c'est qu'Eliot est un poète puissant, très puissant. Et c'est aussi quelqu'un, et j'ose avancer le mot, mais je vais dire tout de suite ce que j'entends par ce mot, c'est aussi quelqu'un qui parle avec autorité. Alors nous avons besoin, un très grand besoin de poésie puissante. Il est plus difficile de parler, bien sûr, du besoin d'autorité. Mais on a autant besoin de ça aujourd'hui, je crois. De plus en plus besoin d'autorité. Alors je m'explique. Quand je prononce ce mot, bien sûr, je ne vois pas je ne sais quel magistère ou je ne sais quel maréchal, bâton ou pire, à la main. Absolument pas. Je n'entends aucune orthodoxie, surtout aucune orthodoxie précoce. J'y entends dans ce mot autorité le mot auteur. N'est-ce pas? L'origine latine est la même. Autorité, auteur. Auctum, en latin. Augeri, auctum. Alors, Eliot est quelqu'un qui parle avec autorité dans ce sens-là. C'est-à-dire, j'explique maintenant ce que j'entends par ce mot autorité, il parle d'une voix ferme, assurée, avec une pensée fondée à un très haut niveau. C'est ce que j'entends par ce mot. Hein. Rien de désagréable, enfin, c'est l'autre connotation que j'écarte d'emblée. Alors, une poésie puissante et la capacité de parler avec autorité, entre guillemets, si vous voulez, de cette manière-là, est assez rare. C'est ainsi, de ces deux points de vue, que je vais essayer de présenter devant vous ce soir. Détail pratique, pour les citations, pour les lectures, j'utiliserai à quelques exceptions près la traduction de Pierre Léris, parue au Seuil. Les exceptions, je me suis permis de modifier un tout petit peu la traduction de Pierre Léris à un moment donné, et il y a un poème qui ne figure pas dans le choix des poèmes du début de ce livre. Hein, il y a un poème qu'il a écarté de son choix, dont j'avais besoin. Donc cette traduction n'existe pas dans le livre. Mais à part cela, ce seront les traductions de T.S. Eliot, de Pierre Léris, pardon, qui feront la base de mes lectures en français. À chaque occasion, pour ce qui est des lectures, je lirai d'abord donc le texte français, c'est-à-dire la traduction des poèmes par Pierre Léris. Ensuite, je crois toujours que ce sera intéressant, pas seulement parce que je sais qu'il y a quelques anglicistes dans la salle, mais pour les autres qui éventuellement ne sont pas anglicistes. Ensuite, je lirai le texte anglais. Disons que je lirai le texte français surtout pour le sens, et ensuite je lirai le texte anglais surtout pour le son. On devrait arriver de cette manière, avec cette méthode, à quelque chose, disons, d'assez complet. Un tout petit détail, par manque de temps, j'ai écrit cette conférence dans une sorte de sténographie anglaise. Je vais donc me traduire au fur et à mesure, traduire, c'est-à-dire non seulement mon anglais, mais ma sténographie. Alors, je vous demande à l'avance de m'excuser si, de temps en temps, on ne sait jamais, il y a une petite hésitation, peut-être même, de temps en temps, un petit lapsus, on ne sait jamais. T.S. Eliot, du couchant des cosmogonies à la plage sauvage. La poésie anglaise victorienne, avec sa rhétorique redondante, ses valeurs humanistes et humanitaires, dure, en se traînant un peu, jusque vers la Première Guerre mondiale. Et cette poésie-là, redondante, rhétoricienne, avec ses valeurs humanistes, se désagrège violemment sur les champs de bataille d'Ypres et de Passchendaele, ces grands champs de bataille de la guerre de 14-18. Et dès les années 20 en Angleterre, la poésie est située en enfer, dans un enfer, parmi des ombres mythologiques. Elle erre à travers la culture universelle. Elle est écrite dans une sorte de babel linguistique syncopé, une sorte de jazz cosmopoétique, si je puis dire. Oh, 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 that Shakespearean rag. Par des personnages, des esprits cosmopolites surtout, cosmopolites sans gîte, homeless, sans gîte, et légèrement psychotique. Je dis ça en bien. Je pense évidemment à ces Américains expatriés qui ont revivifié le champ de l'activité poétique en Angleterre. Je pense bien sûr à Ezra Pound et notamment à T.S. Eliot, Thomas Stearns Eliot. Voici ce qu'il dit dans un de ses essais importants. Il a écrit des essais importants. C'est un essayiste autant qu'un poète. Les poètes métaphysiciens, qui datent de 1921. Il semble évident, dit-il dans ce livre, il semble évident que dans notre civilisation, les poètes doivent être difficiles. Notre civilisation comporte une immense variété et une grande complexité. Et cette variété et cette complexité, jouant sur une sensibilité raffinée, doivent nécessairement produire des résultats complexes. Le poète doit maîtriser de plus en plus de matière, il doit devenir de plus en plus compréhensif, de plus en plus allusif, de plus en plus indirect, afin de forcer le langage ou même de le disloquer en le déformant afin de lui faire véhiculer le sens qu'il veut. Le poète doit être capable, en d'autres mots, d'amalgamer des expériences disparates et des connaissances hétérogènes. L'homme ordinaire, dit Eliot, je le cite, tombe amoureux, lit Spinoza, et ces expériences n'ont rien à voir l'une avec l'autre. Et ces deux expériences n'ont rien à voir non plus avec le bruit de la machine à écrire ou avec l'odeur de cuisine. Dans l'esprit du poète, par contre, ces expériences, toutes ces expériences, forment des unités, des entités. La méthode donc qu'il adopte dès le départ est, disons, kaléidoscopique. Quant à la situation générale dans laquelle cette méthode semblait à la fois attirante et appropriée, établissons quelques perspectives globales qui ne sont pas nécessairement les nôtres à la fin de cette conférence, mais l'écrivain autrichien Musil, l'homme sans qualité, voyait la situation globale de cette manière. Il disait que dans la culture, disons, contemporaine, on ne voyait plus l'homme entier. Tout ce qu'on voyait, c'était quelque chose d'informe qui flottait dans un bain de culture universelle. Ça, c'est Musil. Et en Grande-Bretagne, un critique marxiste, un des rares, peut-être pratiquement le seul en Grande-Bretagne, Christopher Caldwell, parlait à propos de cette situation et d'une certaine littérature de convulsion morbide, d'agonie complaisante, de chant de cygne dément. Alors, nous verrons bien, comme je disais, à quelle perspective globale nous aboutirons nous-mêmes avant d'avancer dans ce territoire d'Eliot et de suivre ces mouvements à l'intérieur de ce territoire. Je voudrais seulement insister sur une chose, sur un fait. C'est que si la poésie d'Eliot est difficile, et elle est d'une certaine manière, elle n'est pas du tout difficile dans le sens, disons, de mots croisés supérieurs. Elle n'est pas difficile dans ce sens-là. Ces poèmes ne sont pas des mots croisés supérieurs. Elle est difficile dans un autre sens. Elle est difficile à cause de ses références multiculturelles. T.S. Eliot prend comme allant de soi, ma foi, que quelqu'un qui veut comprendre quelque chose aujourd'hui va se donner un peu de mal pour savoir ce qui se passe du côté du bouddhisme, ce qui se passe du côté des sciences, etc., etc. Et essaiera d'avoir, non pas 10 langues à sa disposition, mais avoir connaissance de 2-3 langues au moins. Petite connaissance. Elle est difficile à cause donc de ses références multiculturelles, de sa phraseologie elliptique, ça va très vite. La poésie, pour lui, comme pour beaucoup de poètes modernes, serait aussi de la pensée rapide, de la pensée extrêmement rapide. Pour moi, c'est une des meilleures définitions de la poésie, d'ailleurs. Penser rapidement. Elle est difficile aussi, je mets difficile entre guillemets, en quelque sorte, elle est difficile aussi à cause de ses images multidimensionnelles et de ses transitions extrêmement rapides. Mais, pour ces mêmes raisons, elle exerce, je pense, dès le départ, une réelle fascination. Et elle offre tout de suite une jouissance immédiate. Même, c'est-à-dire, pour dire ça d'une autre manière, même si on ne saisit pas tout de suite tout ce dont il est question, on est fasciné, on est pris dans le mouvement, il y a une jouissance immédiate. Regardons par exemple ce poème, c'est un de ses premiers poèmes, enfin pas tout à fait premier, mais un de ses premiers grands poèmes, The Love Song of J. Alfred Prufrock. Comme je disais, je lirai d'abord en français, surtout, mais pas uniquement, surtout pour le sens, et ensuite en anglais, surtout, mais pas uniquement, bien sûr, pour le son. La chanson d'amour de J. Alfred Prufrock. Allons-nous-en donc, toi et moi, lorsque le soir est étendu contre le ciel, comme un patient anesthésié sur une table. Allons par telle rue que je sais, mi-déserte, chuchotante, retraite, pour les nuits sans sommeil dans les hôtels de passe et les bistrots à coquilles d'huîtres jonchés de sciures. Ces rues qui poursuivent, dirait-on, quelques disputes interminables avec l'insidieux propos de te mener vers une question bouleversante. On ne demande pas laquelle. Allons plutôt faire notre visite. dans la pièce, les femmes vont et viennent en parlant des maîtres de sienne. Le brouillard jaune qui frotte aux vitres son échine, le brouillard jaune qui frotte aux vitres son museau, a couleuvré sa langue dans les recoins du soir, a traîné sur les mares stagnantes des égouts, a laissé choir sur son échine la suie qui choie des cheminées, glissé le long de la terrasse, bondit soudain, et, voyant qu'il faisait un tendre soir d'octobre, s'est enroulé autour de la maison, puis endormi. Et pour sûr, elle aura le temps, la jaunâtre fumée qui glisse au long des rues, de se frotter l'échine aux vitres. Tu auras le temps de te préparer un visage pour les visages de rencontre, le temps de mettre à mort et de créer, le temps qu'il faut pour les travaux et jours des mains, qui soulèvent puis laissent retomber une question sur ton assiette. Tant pour toi et tant pour moi, tant pour sans hésitation, pour sans vision et révision, avant de prendre une tasse de thé. Voici le même poème en anglais. The Love Song of J. Alfred Prufrock. Let us go then, you and I. When the evening is spread out against the sky like a patient etherized upon a table, let us go through certain half-deserted streets, the muttering retreats of restless nights in one-night cheap hotels and sawdust restaurants with oyster shells. Streets that follow like a tedious argument of insidious intent to lead you to an overwhelming question. Oh, do not ask, what is it? Let us go and make our visit. In the room, the women come and go, talking of Michelangelo. The yellow fog that rubs its back upon the window panes, the yellow smoke that rubs its muzzle on the window panes, licked its tongue into the corners of the evening, lingered upon the pools that stand in drains, let fall upon its back the soot that falls from chimneys, slipped by the terrace, made a sudden leap, and, seeing that it was a soft October night, curled once about the house and fell asleep. And indeed there will be time for the yellow smoke that slides along the street, rubbing its back upon the window panes. There will be time to prepare a face to meet the faces that you meet. There will be time to murder and create, and time for all the works and days of hands that lift and drop a question on your plate. Time for you and time for me, and time yet for 100 indecisions and for 100 visions and revisions before the taking of a toast and tea. Le moi de ce poème, The Love Song, le chant d'amour de J. Alfred Prufrock, est en partie, du moins, T.S. Eliot, Thomas Stearns Eliot, et je vais parcourir rapidement, très rapidement, sa biographie, sa vie, afin d'insister sur certains points qui me semblent importants. Il est né, il y a exactement 100 ans, 1888, à Saint-Louis, dans le Missouri. Saint-Louis, la vieille capitale française de la Louisiane. J'insiste là-dessus. Des deux côtés de sa famille, les Elliott et les Stern, vous avez des gens de descendance anglaise, de vieille descendance anglaise, et appartenant à la vieille souche de la Nouvelle-Angleterre. En religion, ils sont presbytériens, c'est-à-dire ils appartiennent à une forme forte, véhémente même, du protestantisme. Et ils sont aussi, à d'autres moments, unitariens. Unitariens au sens américain, pour le définir rapidement, c'est la tentative de marier Platon et la Bible. C'est-à-dire garder une culture humaniste et grecque tout en restant chrétien, biblique. Son grand-père, Eliot, a fondé la première église unitarienne de Saint-Louis. Ils sont partis de la Nouvelle-Angleterre, de la côte ouest du Massachusetts, vers Saint-Louis, la famille, vers 1834. Et la famille d'Eliot va naviguer entre le Missouri c'est-à-dire le pays de la Grande Rivière, hein, le Missouri, Mississippi, Mississippi, Missouri, et le Massachusetts, c'est-à-dire la côte, hein, un paysage marin d'un côté et un grand fleuve de l'autre. Cette géographie est aussi importante, sinon plus importante, que sa généalogie, mais elle est importante aussi, bien sûr. Entre 1906 et 1910, il étudie à l'université de Harvard, qui pour lui est une espèce d'extension de la maison familiale, parce qu'un ancêtre avait été président de cette université. Eliot trouve l'atmosphère de l'université de Harvard étroitement puritaine et désespérément provinciale. Et les États-Unis en général, pour lui, pour Eliot, à cette époque, début du XXe siècle, étaient inévitablement et désespérément une zone secondaire, disait-il. Il y avait quand même un professeur qui retenait son attention et qui forçait même son admiration, c'était Irvin Babbitt, et Irvin Babbitt était l'auteur d'un livre, et le titre est important, « Maître de la critique française moderne ». Il y avait déjà une attirance vers la France, vers la culture française, vers la langue française. Donc il étudie sous Irvin Babbitt, et il lit, et ça qui est surtout important, il lit beaucoup Dante. Non seulement un poète énorme, mais aussi, selon Mandelstam, le poète russe, plus qu'un poète au sens banal du mot, mais, dit Mandelstam, un stratège de la mutation. Et Eliot est un peu ça aussi, à sa manière. 1910-1911, il quitte les États-Unis pour la première fois, et il vient étudier en Europe, en France et en Allemagne. Il est à la Sorbonne et à l'Université de Munich. Au Collège de France, il écoute les conférences de Bergson. Il n'est pas toujours d'accord. Il a une tête philosophique, Eliot aussi. Hein. Il n'est pas toujours d'accord avec Bergson, mais ce qui est important dans ses études bergsoniennes, c'est une attirance pour le problème du temps, de la durée. On l'a vu d'ailleurs dans le poème, « There will be time for you, time for me », le mot temps, le mot durée revient tout le temps. C'est une préoccupation. 1911, il s'en retourne aux États-Unis avec les éléments, l'ossature d'une thèse de doctorat en philosophie. Le titre de ce thèse de doctorat, que j'ai lu, mais on peut s'en passer, c'est « Meinungsgestandnistheorie considérée en rapport avec la théorie de la connaissance de Bradley ». En même temps, et c'est encore plus important ça, il commence à étudier le sanskrit pour s'initier à la culture indienne et le pali. Le sanskrit et le pali. Et il avance très loin, très rapidement dans ses études. 1914, il quitte encore les États-Unis pour étudier encore une fois en Allemagne, à Marburg. Et là, il étudie Husserl, surtout. Husserl, la phénoménologie. Ensuite, il va en Angleterre, donc la France, l'Allemagne, l'Angleterre. Il va à Oxford, à Merton College, au collège de Merton, où il plonge carrément dans Aristote. Il reprend les choses, disons, la culture occidentale à partir du début, Aristote, la poétique d'Aristote. 1915-1916, il a besoin de gagner sa vie, ou il veut gagner sa vie, et il enseigne dans diverses écoles en Angleterre. Il enseigne une variété incroyable de choses. Dans une école, il avait à enseigner, déjà à ce moment-là, on mettait les professeurs au pas, n'est-ce pas? Il enseignait le français, la mathématique, l'histoire, la géographie, le dessin et la nage. Il a quitté ce travail assez vite. 1917, son premier livre paraît, Prufrock and Other Observations, Prufrock et d'autres observations. Ce livre sort aidé en grande partie par Ezra Pound. Et il devient éditeur d'une revue littéraire très importante, The Egoist, l'égoïste. De 1917 à 1925, toujours besoin de gagner sa vie, et il choisit le travail d'employé de banque. Lloyd's Bank, la banque de Lloyd's à Londres. 1920, ses premiers essais commencent à paraître, et le titre est significatif, Le bois sacré. Le bois sacré. 1922, grande date bien sûr, c'est la parution de La Terre Gaste, The Wasteland, dédiée à Pound. 1922, De 1922 à 1939, il est éditeur d'une autre revue importante, The Criterion, le Critérium. 1925, un autre livre de poèmes important, Les Hommes Creux. Hein? Je cite les titres parce qu'ils sont, ils sont parlants. Les Hommes Creux. 1928, il devient citoyen britannique, il devient anglais et membre de l'Église anglicane. Et c'est cette année-là qu'il sort sa célèbre formule. De 1925 à 1965, pendant 40 ans, il est co-directeur d'une des plus grandes maisons d'édition anglaise, britannique de l'époque, Faber and Faber. Et pendant ces années-là, pendant 40 ans, il dirige en grande partie la littérature en Angleterre, en Grande-Bretagne. 1932, juste pour montrer qu'il y a une reconnaissance assez vite quand même aux États-Unis aussi, il occupe la chaire de poétique à Harvard. La chaire s'appelle Charles Eliot Norton Chair. Hein? Elle l'attendait en quelque sorte. 1936, d'autres essais anciens et modernes. Et les œuvres poétiques complètes paraissent. Déjà 1936, assez tôt. 1943, les quatuors que je lirai tout à l'heure, enfin, dont je lirai quelques extraits tout à l'heure. 1947, prix Nobel de littérature. 1948, un essai important, note vers une définition de la culture. Ce mot dont on parle tant ces années-ci, ces temps-ci en France, était une préoccupation énorme dans les années, enfin, fin des années 40 en Angleterre, en grande partie grâce à T.S. Eliot et Ezra Pound. Et 1965, il meurt à Londres. Le poème que j'ai cité tout à l'heure, son titre donc était « Le chant d'amour de G. Alfred Prufrock »,« The Love Song of J. Alfred Prufrock ». Il sort du livre « Prufrock and Other Observations »,« Prufrock et autres observations ». Le poème était écrit entre Paris et Munich, disons autour de 1911. Avant d'aller plus loin, regardons simplement ce nom, J. Alfred Prufrock. La première chose à remarquer, peut-être, c'est sa ressemblance avec le titre d'un poème d'Ezra Pound, The Song of J. Selwyn Moberly. C'est exactement le même sorte de nom. Mais le nom J. Selwyn Moberly, c'est déjà assez ridicule. Mais J. Alfred Prufrock l'est encore plus. Hein? J. Alfred Prufrock est carrément un nom ridicule, mais qui veut l'être. En anglais, tout de suite, Prufrock, on y entend prudery, hein? Pruderie, prude, et frock, jupe. Hein? Donc, il y a énormément d'auto-ironie dans ce titre. Eliot se prend pour un Prufrock, quelqu'un de prude. Hein? Il y a quand même une ascendance puritaine, là. Cette auto-ironie, déjà très patente dans le titre de ce poème, lui vient à aller directement de Jules Laforgue. C'est Jules Laforgue traduit en anglais, en quelque sorte. Hein. Il faut penser tout de suite aux complaintes de Jules Laforgue. Complaintes sur certains ennuis. Complaintes de la lune en province. La complainte de la lune en province, par exemple, se termine ainsi, vous vous rappelez, et la lune a, bonne vieille, du coton dans les oreilles. Le soir décrit dans le poème d'Eliot comme un patient anesthésié sur une table est la réplique exacte. Hein? La lune comme une bonne vieille du coton dans les oreilles, le soir décrit comme un patient anesthésié sur une table, c'est la même imagerie, c'est la même mentalité. Il y a aussi, comme un bonus en quelque sorte, un rappel de Baudelaire. Baudelaire, chez qui le monde est vu très souvent comme un hôpital. Pensons à un autre poème de Jules Laforgue, pour confirmer peut-être ce que je suis en train d'avancer, le poème « L'hiver qui vient ». L'hiver qui vient avec ses phrases « blocus sentimental ». Ça, c'est Alfred Prufrock. Il souffre d'un blocus sentimental. D'autres phrases du poème de Jules Laforgue, « Ah, nuées accourues des côtes de la Manche, vous nous avez gâté notre dernier dimanche. » Le ton est le même. Une image qu'on trouve dans ce poème « L'hiver qui vient », un soleil blanc comme un crachat déstaminé. La même sorte d'image. Disons la nature intégrée à une civilisation, et une civilisation assez sale, assez moche, assez dégradée. Et le poème de Jules Lafogue se termine sur ce vers, lampe, estampe, thé, petit four. Lampe, estampe, thé, petit four. C'est exactement la phrase d'Eliot, toast and tea. C'est une réplique, presque une décalque. Donc, l'atmosphère des premiers poèmes d'Eliot est lafogienne, avec cette auto-ironie et ses spleens kilométriques. Et aussi son couchant des cosmogonies. Ça, c'est dans le couchant des cosmogonies, se trouve dans le poème Complainte sur certains ennuis. Donc, le courant laforgien, courant Lafogue, est omniprésent. Première grande influence, donc, est une influence française. La deuxième influence est aussi française. Et la deuxième influence vient d'un poète plus vigoureux, plus mordant, plus incisif que Jules Lafogue, et c'est le poète breton Tristan Corbière. Tristan Corbière qui se décrit comme le poète contumace et qui continue son autoportrait de la manière suivante, faisant d'un à peu près d'artiste, un philosophe d'à peu près, râleur de soleil ou de frais, en dehors de l'humaine piste, en dehors de l'humaine piste. Il continue son autoportrait dans un autre poème, épitaphe pour Tristan Joachim Édouard Corbière, philosophe, de la manière suivante, épave mornée, mélange adultère de tout, de la fortune et pas le sou, de l'énergie et pas de force. Ceci nous amène directement au poème d'Eliot intitulé « Mélange adultère de tout ». Il prend carrément le vers de Tristan Corbière. Et voici le poème « Mélange adultère de tout » que Eliot a écrit directement en français. Donc, je le lis dans le texte original. « Mélange adultère de tout ». En Amérique, professeur. En Angleterre, journaliste. C'est à grands pas et en sueur que vous suivrez à peine ma piste. En Yorkshire, conférencier. À Londres, un peu banquier. Vous me payerez bien la tête. C'est à Paris que je me coiffe. Casque noir de je m'en foutiste. En Allemagne, philosophe. Surexcité par M. Hoheben, au grand air de Bergsteigleben. J'erre toujours de ci, de là, à divers coups de tralala. De Damas jusqu'à Omaha. Je célébrais mon jour de fête dans une oasis d'Afrique, vêtue d'une peau de girafe. On montrera mon cénotaphe aux côtes brûlantes de Mozambique. Alors, je dis tout de suite, et vous l'avez déjà compris, c'est loin d'être la meilleure chose que T.S. Eliot ait écrite. Hein. Mais il a eu la faiblesse, ou la coquetterie, d'inclure ce poème dans son œuvre poétique complète, donc je ne me sens pas trop coupable de le citer. Un autre poème de Tristan Corbière, qui a eu une très grande influence sur T.S. Eliot, était le cantique spirituel, je cite le mot de Tristan Corbière, le cantique spirituel qui s'intitule « La rhapsode foraine et le pardon de Sainte-Anne ». On peut lire ces vers « dru, fort, rude, brutaux, bénite et l'infertile plage où, quand la mer, tout est nu, sainte la chapelle sauvage, de Sainte-Anne de la Palue. » Alors, un poème tel que celui-ci mène directement au rhapsodie, rhapsodie par une nuit venteuse, qu'on trouve dans l'œuvre complète d'Eliot. Je vais lire donc rhapsodie d'une nuit venteuse. Comme toujours, français d'abord, anglais ensuite. Rhapsodie d'une nuit venteuse. Minuit. Sur toute la longueur de la rue, prise dans une synthèse lunaire et qui chuchote des incantations lunaires, se dissolvent les bases de la mémoire, ainsi que tous ces rapports clairs, toutes ces divisions et ces précisions. Chaque lampadaire devant lequel je passe bat tel un tambour fataliste, et à travers les espaces obscurs, minuit agite la mémoire comme un fou agite un géranium mort. En anglais, ça donne Rhapsody on a Windy Night. 12 o'clock. Along the reaches of the street,
held in a lunar synthesis, whispering lunar incantations, dissolve the flows of memory and all its clear relations, its divisions and precisions. Every street lamp that I pass beats like a fatalistic drum, and through the spaces of the dark, midnight shakes the memory as a madman shakes a dead geranium.
Ce poème donc, le poème de La Forgue, pardon, de Christian Corbière, a donné lieu à ce poème Rhapsodie d'une nuit venteuse, mais elle a donné, à mon avis, autre chose qui va paraître beaucoup plus tard. Parce que le poème de Corbière dédié à Sainte-Anne de la Palue, Sainte-Anne, devait rappeler à T.S. Eliot sa côte de la Nouvelle-Angleterre, Cape Ann, le Cap Ann. Et on va trouver à la fin de son œuvre un poème dédié à un lieu de cette côte du Massachusetts, les Trois Sauvages, les îles au large de la côte. Si Eliot a pris le chemin de la France, de la culture française, de la poésie française, disant par exemple dans un de ses essais que la sorte de poésie dont j'avais besoin pour que je puisse acquérir ma propre voix n'existait pas du tout en Angleterre. Je ne la trouvais qu'en France. Alors s'il a pu dire cela, c'est parce qu'il sentait que la poésie anglaise, telle qu'il l'avait trouvée, était incomplète. Il est dommage, dit-il dans son essai « Les poètes métaphysiciens », que la poésie anglaise soit restée si incomplète. Alors qu'est-ce que c'est que cette incomplétude de la poésie anglaise et comment cette incomplétude a-t-elle pu s'instaurer ? Alors l'idée d'Eliot, c'est qu'au XVIIe siècle, a eu lieu une dissociation dans les esprits. Une dissociation entre, disons, la sensibilité d'un côté et l'intellect de l'autre. L'intellect est devenu de plus en plus réflexion sur la réflexion, une réflexion réflexive, et est devenu de plus en plus artificielle. Quant à l'émotion, est laissée toute seule, elle est devenue de plus en plus sentimentale. Donc il y a dissociation et comme cause, ou comme résultat plutôt, de cette dissociation, il y a une dégradation des deux choses. Et ce que lui, il veut faire, c'est rendre l'intelligence plus sensible, rendre la sensibilité plus intelligente. Cette dissociation de l'intelligence et de l'émotif, pas seulement d'ailleurs en Angleterre, aussi en France, un peu partout en Europe, a donné lieu à une petite polémique qui continue à courir les rues, certains journaux, même certains livres, la division entre l'intellectuel de l'autre d'un côté et le poète de l'autre. De sorte que vous avez des gens qui avancent des idées, selon lesquelles le poète ne doit pas penser, le poète ne doit pas être un intellectuel, il doit écrire à partir de son cœur. Alors, Eliot dit, c'est très bien le cœur, mais chercher dans son cœur, c'est ne pas chercher assez loin. Il faut chercher aussi dans le cortex cérébral, il faut chercher dans le système nerveux. Alors, c'est cette vision plus globale, cette manière d'être au monde plus globale, plus totale, que Eliot cherchait et qu'il trouvait effectivement plus chez certains poètes français que chez la plupart, disons, des poètes anglais. Il a fini aussi par avoir un état d'avant la dissociation, dont je viens de parler, chez des Anglais, avant le XVIIe siècle. Par exemple, chez John Donne. Et il va trouver que La Forgue et Corbière sont plus proches de John Donne que n'importe quel poète anglais moderne. Il cherche donc, Eliot, une unification de l'être, côté intellectuel et le côté sensible, réunis dans un nouvel état. Il se réfère à John Donne et il dit que John Donne sentait sa pensée aussi immédiatement qu'il sentait l'odeur d'une rose. Il cherche en quelque sorte des idées-sensations, des idées sensationnelles, si je puis dire. Ce qu'il aimait aussi chez John Donne, comme chez Laforgue et Corbière, surtout Corbière, c'était ce que Dr. Johnson, le critique anglais, au pied parfois un peu lourd, mais quelquefois aussi il disait des choses probantes. Ici, il était complètement à côté, si je puis dire, de ses pieds un peu lourds. Il reprochait à John Donne sa manie, parce que oui, il voyait ça comme une manie, de rapprocher les idées les plus hétérogènes. Il disait que c'était des rapprochements violents. Alors c'est justement ça qu'Eliot aime. C'est ça dont il sent le besoin. J'en ai parlé un peu au début de cette conférence. Il veut associer au contraire non seulement l'intelligence et la sensibilité, mais des choses qui sont laissées séparées dans notre civilisation. Ça, c'est la fameuse image métaphysique. Donne, par exemple, va décrire des amoureux comme une paire de compas. Il va parler aussi, et ça me parle encore plus. Bon, je reviens un peu là-dessus. Il va avoir d'un côté des images extrêmement complexes. Alliant, par exemple, science et sensibilité, comme les amoureux, comme une paire de compas. Donc, d'un côté, des images complexes, des images télescopées, si je puis dire. Mais à côté de ça, des simplicités absolues. Par exemple, il y a une phrase de John Donne dans un de ses poèmes, et c'est le plus beau vers de John Donne, à mon avis. En anglais, c'est « a bracelet of bright hair about the bone ». Littéralement, un bracelet de poils brillants autour de l'os. Un bracelet de poils ou de cheveux, peut-être. Poils ou cheveux brillants autour de l'os. Alors, on peut voir ça soit comme les cheveux de femme qui tombent devant l'os de la joue, par exemple. Ou bien, on peut voir ça comme des poils blonds sur un poignet. Les deux images, de toute façon, sont d'une beauté à la fois simple et puissante. Et ces images, à mon avis, créent une sorte d'éclair érotico-logique dans l'esprit. Et érotico-logique, j'associe à la fois l'éros, c'est-à-dire la sensibilité de la vie, la sensation de vie, et une pensée. Image métaphysique, a dit Eliot, moi je dirais plutôt intellectuelle au sens fort du mot, dans le sens original du mot. Le sens qu'on peut trouver chez Platon, par exemple, où la chose intellectuelle, c'est comme un éclair dans le ciel. C'est un éclat de lumière dans le ciel mental. Voilà ce que veut dire intellectuel au sens original du mot en grec. Alors c'était ça qu'Eliot ne trouvait pas en Angleterre, où la poésie était soit rhétorique, soit petite émotivité, poésie de la personne. Mais qui prétendait, qui croyait trouver, qui trouvait effectivement, chez certains poètes français. Et qu'il allait continuer à chercher du côté de certains intellectuels français. Bon, je nomme certains, puisqu'il s'est dit tout à l'heure, classiciste en littérature et royaliste en politique, vous ne serez pas étonné de savoir qu'il lisait pas mal Maurras. Anglo-catholique, bon, il lisait Maritain, Réflexion sur l'intelligence, du Thomisme, avec une source dantesque, source tendante. Un rapport très étroit aussi avec Saint John Perse, qui est en dehors de tout cela. Il a traduit, par exemple, Anabase de Saint John Perse. Donc il y avait un rapport très étroit. Si on considère le titre de son premier livre, Proof Rock and Other Observations, à partir d'observations et de recherches extrêmement diverses et hétérogènes, T.S. Eliot était en train d'essayer d'établir une nouvelle unité, un nouvel état d'esprit. Disons, il essayait d'aller de l'empirisme à un empire intellectuel. L'influence française, donc, était énorme. C'est la première grande influence sur T.S. Eliot, il ne faut jamais l'oublier. Surtout, disons, du côté de l'intelligence et de la sensibilité. Le rapport entre les deux. C'est ça qu'il trouvait dans la culture française. Et je suis d'accord avec lui. Une autre grande influence sur lui, c'était l'influence allemande. Tout aussi forte, tout aussi importante. Et l'influence allemande touchait à quelque chose qu'on pourrait appeler la critique culturelle. En allemand, Kulturkritik. La critique culturelle, analyse de la société, de la civilisation, de la culture. Et c'est ça qui émerge, qui s'exprime dans le grand poème The Wasteland. Là, l'influence est surtout allemande. The Wasteland, la terre gaste. Je vais donc maintenant lire un extrait de la terre Gast. En français d'abord et en anglais ensuite. Avril est le plus cruel des mois. Il engendre des lilas qui jaillissent à la terre morte. Il mêle souvenances et désirs. Il réveille par ses pluies de printemps les racines inertes. L'hiver nous teint au chaud de sa neige oublieuse couvrant la terre, entretenant des tubercules secs d'une petite vie. L'été nous surprit, porté par l'averse sur le Steinbergersee. Nous fîmes halte sur les portiques et poussâmes l'éclaircie venue dans le Hofgarten. Et puis nous prîmes du café et nous causâmes. Ben car kein Russin stamm aus Litauen, echt Deutsch. Et lorsque nous étions enfants, en visite chez l'archiduc, mon cousin, il m'emmena sur son traîneau et je pris peur. Marie, dit-il, Marie, campons-toi. Et nous voilà partis. Dans les montagnes, c'est là qu'on se sent libre. Je lis presque toute la nuit et l'hiver, je gagne le sud. Quelles racines s'agrippent, quelles branches croissent parmi ces rocailleux débris. Ô fils de l'homme, tu ne peux le dire ni le deviner, ne connaissant qu'un amas d'images brisées sur lesquelles frappe le soleil. L'arbre mort n'offre aucun abri, la sauterelle aucun répit, la roche sèche aucun bruit d'eau, point d'ombre, si ce n'est là, dessous ce rocher rouge. Viens t'abriter à l'ombre de ce rocher rouge, et je te montrerai quelque chose qui n'est ni ton ombre au matin marchant derrière toi, ni ton ombre le soir surgit à ta rencontre. Je te montrerai ton effroi dans une poignée de poussière. Frisch weht der Wind der Heimat zu, mein irisch Kind, wo weilest du? Juste une année depuis tes premières hyacinthes, on m'avait surnommé la fille aux hyacinthes. Pourtant, le soir que nous rentrâmes si tard du jardin des hyacinthes, toi les bras pleins et les cheveux mouillés, je ne pouvais rien dire et mes yeux se voilaient, je n'étais ni mort, ni vif et je ne savais rien. Je regardais au cœur de la lumière, du silence, öde und leer das Meer. Madame Sosostris, fameuse pythonisse, avait un mauvais rhume. Encore qu'on la tienne pour la femme la plus experte de l'Europe, avec un méchant jeu des cartes. Voici, dit-elle, votre carte, le marin phénicien noyé. These are pearls that were his eyes, regarde. Voici Belladonna, la dame des récifs, mais qu'il m'est interdit de voir. Je ne trouve pas le pendu. Gardez-vous de la mort par noyade. Je vois comme des foules et qu'ils tournent en rond. Merci. Quand vous verrez la chère M. Quetone, dites-lui de ma part que je lui porterai l'horoscope moi-même. Il faut être si prudent par le temps qui court. Cité fantôme. Sous le fauve brouillard d'une aurore hivernale, la foule s'écoulait sur le pont de Londres, tant de gens. Qui eût dit que la mort eût défait tant de gens? Des soupirs s'exhalaient espacés et rapides, et chacun fixait son regard devant ses pas. S'écoulait, dis-je, à contrepente, et dévalait King William Street, vers où Sainte Marie Woolnut comptait les heures avec un son éteint au coup final de neuf. Là, j'aperçus quelqu'un et le hélé. Stetson, toi qui fus avec moi dans la flotte à Millet, ce cadavre que tu plantas l'année dernière dans ton jardin, a-t-il déjà levé? Va-t-il pas fleurir cette année? Ou si la bleue légeance a dérangé sa couche? Oh, keep the dog far hence, that's friend to man. Or with his nails he digged up again. Hypocrite lecteur, mon semblable. Mon frère. And here's the same poem in English. Same extract, le même extrait. April is the cruelest month. Breeding lilacs out of the dead land, mixing memory and desire, stirring dull roots with spring rain. Winter kept us warm, covering earth in forgetful snow, feeding a little life with dried tubers. Summer surprised us, coming over the Starnbergersee with a shower of rain. We stopped in the colonnade and went on in sunlight into the Hofgarten and drank coffee and talked for an hour. Bin gar keine Russin stamm aus Litauen, echt Deutsch.
And when we were children studying at the Archduke's, my cousin's, he took me out on a sled and I was frightened. He said, Marie, Marie, hold on tight. And down we went. In the mountains, there you feel free. I read much of the night and go south in the winter. What are the roots that clutch? What branches grow out of this stony rubbish? Son of man, you cannot say or guess, for you know only a heap of broken images where the sun beats, and the dead tree gives no shelter, the cricket no relief, and the dry stone no sound of water. Only there is shadow under this red rock. Come in under the shadow of this red rock, and I will show you something different from either your shadow at morning striding behind you or your shadow at evening rising to meet you. I will show you fear in a handful of dust. Frisch weht der Wind der Heimat zu, mein irisch Kind, wo weilest du? You gave me hyacinths first a year ago. They called me the hyacinth girl. Yet when we came back late from the hyacinth garden, your arms full and your hair wet, I could not speak and my eyes failed. I was neither living nor dead and I knew nothing. Looking into the heart of light, the silence, öd und leer das Meer. Madame Sosostris, famous clairvoyante, had a bad cold. Nevertheless, is known to be the wisest woman in Europe with a wicked pack of cards. Here, should see, is your card, the drowned Phoenician sailor. Those are pearls that were his eyes. Look. Here is Belladonna, the lady of the rocks, the lady of situations. Here is the man with three staves, and here the wheel. And here is the one-eyed merchant of this card, which is blank, is something he carries on his back, which I am forbidden to see. I do not find the hanged man. Fear death by water. I see crowds of people walking round in a ring. Thank you. If you see Mrs. Equatone, tell her I bring the horoscope myself. One must be so careful these days. Unreal city. Under the brown fog of a winter dawn, a crowd flowed over London Bridge, so many. I had not thought death had undone so many. Sighs short and infrequent were exhaled, and each man fixed his eyes before his feet. Flowed up the hill and down King William Street to where St. Mary Woolnoth kept the hours with a dead sound on the final stroke of nine. There I saw one I knew and stopped him crying, Stetson, you who were with me in the ships at Mele, that corpse you planted last year in your garden, has it begun to sprout? Will it bloom this year? Or has the sudden frost disturbed its bed? Oh, keep the dog far hence that's friend to men, or with his nails he'll dig it up again. You hypocrite lecteur, mon semblable, mon frère. L'influence allemande est forte. Avant d'en parler un peu, remarquons aussi quand même la présence très française encore dans ce poème, notamment Baudelaire. Hein. La description de la ville de Londres, par exemple, c'est presque exactement la description que fait Baudelaire de Paris, fourmillante cité, cité pleine de rêves, où le spectre en plein jour raccroche le passant. Paris vu aussi, voilà, ville en général, vu comme, je cite Baudelaire, hôpital, lupanard, purgatoire, enfer, bagne, un désert rocailleux troublé par des cris aigres. On retrouve donc du Baudelaire dans ce poème, mais on trouve encore plus le déclin de l'Occident de Spengler, hein, la culture critique, la critique culturelle de Spengler, le déclin de l'Occident. Et on trouve aussi un livre de Hesse, Blick ins Chaos, ins Chaos, un coup d'œil dans le chaos. Et dans les notes de la Tergast, il y a beaucoup de notes dans l'édition de ce poème, ça a offusqué beaucoup de gens à l'époque. Eliot cite Hesse, Blick ins Chaos, en allemand. Sans traduction. Donc je vais lire la phrase de Hesse en allemand. Blick ins Chaos. Schon ist halb Europa, schon ist zumindest der halbe Osten Europas auf dem Wege zum Chaos. Fährt betrunken im heiligen Wahn am Abgrund entlang und singt dazu, singt betrunken und hymnisch, wie Dmitri Karamasow sang. Über diese Lieder lacht der Bürger beleidigt, der Heilige und Seher aber hört sie mit Tränen.
Ce qui veut dire à peu près que la moitié de l'Europe est déjà sur la voie du chaos. Elle chante à tue-tête, ivre, le long d'un abîme. Le bourgeois offensé rit de cet état de choses, mais le visionnaire, lui, a les yeux remplis de larmes. Alors la critique culturelle de Eliot s'exprime notamment dans son essai, dans son livre, Note vers une définition de la culture. Et voici ce qu'il dit. 1948. On peut affirmer sans craindre trop la contradiction que notre époque est une époque de déclin, que le niveau culturel est plus bas qu'il n'était il y a 50 ans. Hein, on entend des... Hein, et que les preuves de ce déclin sont visibles dans chaque département de l'activité humaine. Je ne vois pas de raison pourquoi cette décadence culturelle n'irait pas beaucoup plus loin? Et pourquoi on ne pourrait pas carrément envisager une époque, qui risque de durer longtemps, à propos de laquelle on pourra dire qu'elle n'a aucune culture du tout? C'est à ce moment-là que la culture aura besoin de repartir à zéro, à partir du sol, à partir d'un fond. Et quand je dis que cette culture doit repartir à partir du sol, je ne veux pas dire qu'elle existera grâce à l'activité des démagogues politiciens. La question fondamentale, en dehors de toute polémique et de toute démagogie, est de savoir si il y a des conditions permanentes dans l'absence desquelles aucune culture digne de ce nom ne puisse exister. 1948. Le poème The Wasteland consiste en observations diverses. C'est quelqu'un qui fait des pérambulations, des pérégrinations à travers la culture moderne, disons. On y rencontre beaucoup d'errants. Le marin phénicien, a sailor from Tyre, Tyr, côté oriental de la Méditerranée. On voit un observateur, surtout un vieil homme qui s'appelle Tiresias, où on retrouve le Tyr, un vieil homme très vieux qui regarde tout cela d'un œil lugubre. À part Hesse et Spengler, les deux autres sources de ce poème sont un livre de Jesse Weston, Du rituel au romanesque, From Ritual to Romance, où il est question de la légende du Graal et de la quête celtique, disons, de l'autre monde. Un autre monde où les hommes retrouveront l'eau de vie qui pourra régénérer la vie en société. En quelque sorte, Eliot va au-delà de Corbière. Corbière, c'était un poète breton. Là, il entre plus loin, disons, dans une certaine culture celtique. L'autre source était le livre de Fraser, Le Rameau d'Or, surtout les volumes consacrés à Adonis, Attis et à Osiris, c'est-à-dire les livres qui concernent les cérémonies végétales. Cérémonies végétales, c'est-à-dire encore une idée de régénération, renaissance, mais il n'y a pas une idée de renaissance ici, en sens normal du mot. Régénération, peut-être plus fondamentale. Les autres sources sont nombreuses. Il y a Dante est très présent, Bouddha est très présent, Wagner, il y avait beaucoup de citations de Wagner dans l'extrait que j'ai lu, Frisch Vita Venta Heimatsu, etc. Webster, le dramaturge anglais, Saint-Augustin, et le Tarot. C'est-à-dire, il y a dans ce poème un fouillis d'images, un discours un peu dément, avec des tons divers. C'est une espèce de rock apocalypse. Merci. C'est-à-dire que déjà, si Proof Rock and Other Observations était la poésie de la personne, là vous avez un grand poème, disons épique, qui tente de dire, enfin d'analyser une situation et de dire un monde. Vous avez une préoccupation avec un monde, plutôt qu'avec un simple moi, plus ou moins émotif, avec des états d'âme, disons. Hein. Vous avez de grandes préoccupations. Et pour Eliot, si on veut continuer à faire de la poésie à partir de 25 ans, jusqu'à 25 ans, dit-il, on peut se contenter de ses états d'âme, de ses sentiments. Mais si on veut continuer après 25 ans, il faut acquérir un sens de l'histoire et entreprendre une certaine analyse culturelle. Il faut être capable de voir une situation en profondeur et en étendue, avoir des perspectives, voir quelque chose de plus vaste que soi-même. Et c'est ce qui émerge dans un autre essai extrêmement important, un autre livre d'essai, Tradition and Individual Talent, la tradition et le talent individuel. Quel est le rapport entre le talent individuel, l'individu et la tradition? Pour Eliot, le poète, aucun mot n'est très satisfaisant là. J'allais dire le poète moderne, mais il est en train de critiquer la modernité. Donc il s'agit de quelque chose d'être autre chose qu'un poète moderne. Poète contemporain. Contemporain est un mot pas très utile, on pense à des meubles surtout. Peut-être poète actuel, peut-être. Alors, pour être un poète actuel, pour être un poète significatif, il faut avoir, au bout des doigts, toute l'Europe, au moins toute l'Europe. Toute l'Europe depuis Homère. Ça, c'est un sine qua non. Et il dit à propos de Blake, par exemple, et ça a offusqué beaucoup de gens, il dit « Blake n'était qu'un poète de génie. N'était qu'un poète de génie. » C'est-à-dire que pour lui, le génie tout seul n'était pas suffisant. Et il dit à propos de poète qui a ses perspectives et qui a cette vision des choses, que la poésie de cet écrivain-là, de ce poète-là, ne consistera pas à laisser s'écouler l'émotion, mais à échapper de l'émotion. Il ne s'agira pas d'exprimer la personnalité, mais d'échapper à la personnalité. Mais bien sûr, dit-il, seuls ceux qui ont une personnalité forte et des émotions fortes comprennent ce que c'est que de vouloir échapper à ces choses. Il parlera dans ce livre aussi d'émotions significatives. Il y a des émotions qui sont significatives, d'autres qui le sont moins. Et afin d'exprimer des émotions significatives, pour que ça soit un peu plus détaché de la personne, il va parler de quelque chose qui a fait couler beaucoup d'encre et qui a fait écrire beaucoup de livres, quelque chose qu'il appelle en anglais « the objective correlative », le corrélatif objectif, c'est-à-dire essayer d'exprimer son émotion à travers un objet, un incident ou éventuellement un personnage, une figure. Mais de plus en plus, dans sa critique culturelle, dans sa volonté, son désir, son besoin de commencer à fonder une culture un peu plus forte que ce qu'il voyait autour de lui, Eliot va avoir de plus en plus recours à la religion. Pour lui, la seule solution, c'est une solution religieuse, théologique. Et il dit la critique littéraire, et c'est à ce moment-là qu'il a commencé à fonder une sorte d'orthodoxie. La critique littéraire, dit-il, doit être complétée par une critique avec des bases éthiques et théologiques fixes. Il dira aussi, à propos de la littérature moderne, « Toute la littérature moderne est corrompue par ce que j'appellerais l'esprit séculaire. » Il dira aussi, la civilisation moderne, ou la littérature moderne, la pensée moderne, est en train de développer une mentalité non chrétienne et l'échouera. Alors, moi, j'ai écouté tout ça et je disais... Bon, c'est là, à ce moment-là que je commençais à ne plus être d'accord. Revenons quand même à Eliot. Lui, il voulait sauver, en quelque sorte, les choses dans ce qu'il considérait comme un âge obscur. Sur sa critique, je suis complètement d'accord. C'est sur ces solutions que j'ai un peu plus de distance. Enfin, quand je dis un peu plus, c'est du understatement anglais. Ça. Pour lui, la communauté unitaire qu'il envisageait devrait être socio-religieuse. La société, pour être cohérente, pour avoir une durée, devait être religieuse. Et il dit, on ne trouve plus cela que dans des tribus, chez des tribus primitives. quand même, il prend des exemples. Je veux dire, ce n'est pas quand même, disons, un curé borné quand même qui est en train de parler. Il a des références anthropologiques quand même, ethnologiques. Et il dit, regardez une tribu primitive, qu'est-ce qu'ils font de sa culture? C'est sa religion. Mais il a raison. Il a raison. Il y a une religiosité qui est à la base de la culture et tout dans la culture se réfère à cette mythologie, à cette religiosité centrale. Alors, D.H. Lawrence s'était rendu compte de cela aussi. Et D.H. Lawrence, comme vous le savez, a parcouru le monde à la recherche de noyaux, de foyers primitifs. Depuis la Cornouaille et l'Écosse en Grande-Bretagne, jusqu'à l'Italie, le sud de l'Italie, l'Australie, le Mexique. Hein. Il avait donc la même recherche qu'Eliot. Mais Eliot, avec son ironie et sa cravate en quelque sorte d'employé de banque, regarde D.H. Lawrence essayer de faire comme les sauvages, essayer de faire le Mexicain des montagnes, et il dit, ça ne marche pas, mon cher David. Hein. Jamais tu ne seras Mexicain. Et il a sans doute raison aussi. Donc, lui, avec ses bases, avec ses perspectives, lui, il dit non, la seule chose pour nous, c'est lui qui parle, la seule chose pour nous, c'est la religion chrétienne. Mais il s'agira bien sûr de renouveler cette religion chrétienne, non pas en la modernisant, au contraire, en l'archaïsant. Il faut remonter jusqu'au père chrétien, dit-il. Il dira, par exemple, ce n'est pas la peine, et c'est une tendance qui commençait déjà dans le christianisme, il ne faut pas essayer de rendre le christianisme facile et plaisant. La jeunesse, ou la meilleure partie de la jeunesse, va adhérer beaucoup plus rapidement à une religion difficile qu'à une religion facile. Il était contre, par exemple, il aurait été contre la messe en langue vernaculaire. Donc, une religion difficile. Un christianisme difficile. Alors, à mon avis, ce n'est pas nécessaire d'être d'accord totalement avec le christianisme d'Eliot pour goûter ses poèmes, pour aimer ses poèmes. Hein. Les poèmes chrétiens d'Eliot, quand ils ne sont pas trop proches d'une prédication, et ça arrive quelquefois quand même, hein, c'est pour ça que Ezra Pound, à un moment donné, l'a appelé le révérend Eliot. Hein. Ça arrive. Mais quand ils ne sont pas trop ça, ils ont une charge poétique forte qu'on peut aimer, à laquelle on peut être réceptif, même si on ne partage pas ses idées. Par exemple, voici un poème chrétien de T.S. Eliot, The Journey of the Maggie. The Journey of the Maggie, Le Voyage des Mages. Ce fut une froide équipée, la pire saison de l'année pour un voyage, surtout pour un si long voyage. Les chemins ravinés, la rafale cinglante, le plus morfondu de l'hiver, et les chameaux meurtris, éclopés, réfractaires, qui se couchaient dans la neige fondue. Plus d'une fois, certes, nous regrettâmes les palais d'été sur les pentes, les terrasses et les filles soyeuses qui passaient des sorbets. Sans compter les chameliers qui juraient, qui maugréaient, qui fuyaient, qui voulaient leurs boissons et leurs femmes, et les feux de bivouac qui s'éteignaient, et le manque d'abri, et les cités hostiles, les bourgs rébarbatifs, les villages crasseux qui demandaient les yeux de la tête. Ce fut une rude équipée. Vers la fin, nous allions toute la nuit durant, en sommeillant par bribes, et des voix résonnaient dans nos oreilles, chantant que tout cela était folie. Une aube, nous descendîmes dans un val tempéré, humide, bien au-dessous de la limite des neiges, imprégné d'odeurs végétales, avec une eau courante, un moulin battant l'ombre, trois arbres contre le ciel bas, et ce vieux cheval blanc qui galopait dans la prairie. Ensuite, ce fut une taverne aux linteaux ornés de corymbes, six mains devant la porte ouverte jouaient au dé des pièces d'argent, et des pieds envoyaient balayer les outres vides. De renseignements, point. Aussi, nous continuâmes
pour arriver le soir, ayons, mais juste à temps, trouvé l'endroit. C'était, pourrait-on dire, un résultat satisfaisant. Tout ceci est fort ancien. J'en ai mémoire et serai prête à le refaire, mais notez bien ceci, notez ceci. Tout ce chemin, nous l'avait-on fait faire vers la naissance ou vers la mort? Qu'il y ait eu une naissance, la chose est sûre, car nous en eûmes la preuve, pas de doute. J'avais vu la naissance et j'avais vu la mort, mais je les avais crues toutes deux différentes. Cette naissance-là fut pour nous agonie amère et douloureuse, fut comme la mort, fut notre mort. Nous sommes revenus chez nous, en ces royaumes, mais sans plus nous sentir à l'aise dans l'ancienne dispensation, avec nos peuples étrangers qui se cramponnent à leur Dieu. Une autre mort serait la bienvenue. En anglais, Journey of the Magi, a cold coming we had of it, just the worst time of the year for a journey, and such a long journey. The ways deep and the weather sharp, the very dead of winter. And the camels galled, sore-footed, refractory, lying down in a melting snow. There were times we regretted the summer palaces and slopes, the terraces, and the silken girls bringing sherbet. Then the camel men cursing and grumbling and running away and wanting their liquor and women, and the night fires going out and the lack of shelters, and the cities hostile and the town unfriendly, and the villages dirty and charging high prices. A hard time we had of it. At the end, we preferred to travel all night, sleeping in snatches, with the voices singing in our ears saying that this was all folly. Then at dawn, we came down to a temperate valley, wet below the snow line, smelling of vegetation, with a running stream and a watermill beating the darkness and three trees in the low sky, and an old white horse galloped away in the meadow. Then we came to a tavern with vine leaves over the lintel, six hands at an open door dicing for pieces of silver, and feet kicking the empty wineskins. But there was no information, and so we continued, and arrived at evening, not a moment too soon, finding the place. It was, you may say, satisfactory. All this was a long time ago, I remember, and I would do it again, but set down this. Were we led on that way for birth or death? There was a birth, certainly. We had evidence and no doubt. I have seen birth and death, but had thought they were different. This birth was hard and bitter agony for us, like death, our death. We returned to our places, these kingdoms, but no longer at ease there in the old dispensation, with an alien people clutching their gods. I should be glad of another death. Comme je disais, pas besoin, en mon sens, de partager les idées et les perspectives d'Eliot pour trouver du plaisir, et plus que du plaisir, de la force et de la puissance dans un tel poème. Et on peut sentir aussi de grandes affinités, à mon sens, avec les Quatre Quatuors, son dernier grand livre de poèmes, parce que, à mon avis, dans ces poèmes, Eliot, en quelque sorte, dépasse ses propres formules, dépasse sa propre orthodoxie. C'est ça le mouvement poétique aussi, selon ses propres idées. Il dépasse sa propre personne, sa propre théorie. Dans ces poèmes-là, à mon sens, les notions de tradition et de structure font place à quelque chose qui m'attire encore plus, c'est l'espace et le mouvement. D'un côté, tradition et structure, de l'autre côté, espace et mouvement. Et les Quatre Quatuors sont pleins d'espace et de mouvement. Et si dans le Wasteland, dans la Terre Gaste, vous avez surtout des images discontinues, ici vous avez une sorte d'éternité, une sorte de sérénité. Une lumière blanche bougeant lentement sur l'horizon. Et vous avez un sens du lieu, un sens de la Terre qui est, ma foi, me semble-t-il, plus païen que chrétien, ou autant païen que chrétien. Il va parler, par exemple, de Dieu au pluriel, plutôt que de Dieu au singulier et avec une majuscule.
Les quatre quatuors concernent quatre lieux. Brunt Norton en Angleterre, dans le Gloucestershire. East Coker, aussi en Angleterre, dans le Somerset. C'est le lieu d'où sont partis les ancêtres de Eliot. Little Gidding, près de Cambridge, où il y avait une communauté religieuse chrétienne. Et puis pour finir, un lieu américain, sur la côte du Massachusetts, The Dry Salvages. The Dry Salvages, c'est la déformation du français, les Trois Sauvages. Les Trois Sauvages, le nom de trois îles au large de la côte du Massachusetts, ainsi nommées par les navigateurs français, et ensuite repris par les colons anglais sous la forme The Dry Salvages. Voici le début des Trois Sauvages. Et là, vous allez avoir ce sens, cette sensation du lieu, les Trois Sauvages. Je ne sais pas grand-chose des dieux, mais je crois que le fleuve est un puissant dieu brun, buté, sauvage et intraitable, patient jusqu'à un certain point, reconnu d'abord pour frontière, expédition, pas de tout repos pour transporter les marchandises, puis tout simplement un problème qui s'offre aux constructeurs de ponts. Une fois le problème résolu, le dieu brun est presque oublié des habitants des villes. Il demeure pourtant implacable, gardant ses saisons et ses rages, destructeur, rappelant aux hommes ce qu'ils préfèrent oublier. Frustré d'honneur propitiatoire par les fidèles de la machine, mais attendant, guettant et attendant. Son rythme était présent dans la chambre d'enfant, dans l'élante luxuriant de l'avant-cour d'avril, dans l'odeur des raisins de la table d'automne, dans la veillée en rond sous le gaz hivernal. Le fleuve est au-dedans de nous, la mer partout autour de nous. La mer est aussi bien le Finistère, le granit où elle s'enfonce, les grèves où elle rejette ces vestiges d'une création plus ancienne, autre. L'étoile de mer, la lumule, l'épine dorsale de baleine, les mares où elle propose à notre œil curieux, les algues délicates et l'anémone de mer. Elle rejette nos pertes, la Seine déchirée, le casiahoma fracassé, la rame brisée, le gréement d'étrangers défunts. Et la mer a beaucoup de voix, beaucoup de dieux, beaucoup de voix. Plus païen, je disais. Voici le même poème. En anglais, le même extrait. I do not know much about gods, but I think that the river is a strong brown god, sullen, untamed, and intractable. Patient to some degree, at first recognized as a frontier, useful, untrustworthy as a conveyor of commerce. Then only a problem confronting the builder of bridges. The problem once solved, the brown god is almost forgotten by the dwellers in cities. Ever, however, implacable, keeping his seasons and regions, destroyer, reminder of what men choose to forget. Unhonored, unpropitiated by worshippers of the machine, but waiting, watching, and waiting. His rhythm was present in the nursery bedroom, and the rank ananthus of the April dooryard, and the smell of grapes on the autumn table, and the evening circle in the winter gaslight. The river is within us. The sea is all about us. The sea is the land's edge also, the granite into which it reaches, the beaches where it tosses its hints of earlier and other creation, the starfish, the horseshoe crab, the whale's backbone, the pools where it offers to our curiosity the more delicate algae and the sea anemone. It tosses up our losses, the torn seine, the shattered lobster pot, the broken oar, and the gear of foreign dead men. The sea has many voices, many gods, and many voices. Et dans ce poème, T.S. Eliot me semble être en train de découvrir à la fois l'Amérique de son enfance, la côte du Massachusetts et le Missouri, et aussi un sens de la terre que nous avons perdu depuis très très longtemps en Europe, en Occident. Pour revenir quand même à son christianisme, parce que ce sens de la terre faisait partie quand même du christianisme de T.S. Eliot. Il dira que pour trouver la meilleure vie, inutile de penser en termes d'abstraction politique, il faut envisager
des gens particuliers dans un lieu particulier. Et dans son christianisme, dans sa culture chrétienne, dans son christianisme culturel, lui, il va regarder de plus en plus du côté de la paroisse. Il dit, je ne veux pas présenter une image idyllique de la paroisse, mais en prenant la paroisse comme norme, je vais dire que la culture viendra d'un petit groupe ayant des attaches au sol pendant une longue période. Et le christianisme de Eliot essaye d'allier le surnaturel et le naturel contre le modernisme qui pour lui est mécanique et abstrait. Donc d'un côté, un naturel surnaturel, ou le naturel et le surnaturel, de l'autre côté, le mécanique et l'abstrait. Des quatre catégories, trois sont anglais, comme je disais, un est l'Amérique, les trois sauvages. Et malgré ces allégeances à un certain moment donné, il me semble que T.S. Eliot reste en grande partie, surtout vers la fin de sa vie, un poète américain. En 1932, après beaucoup d'années à l'étranger, enfin en Angleterre, il est revenu aux États-Unis. Et voici ce qu'il dit. Mes attachements locaux, mes sentiments localistes furent tristement remués par ma première vue de la Nouvelle-Angleterre. Je venais de Montréal et j'avais voyagé toute la journée à travers le beau pays désolé du Vermont. Il fut une époque, je suppose, où ces monts du Vermont étaient couverts de forêts primitives. Les colons anglais ont rasé la forêt pour créer des pâturages à moutons. Les moutons sont partis à présent, ainsi que la plupart des descendants de ces colons. Et une nouvelle forêt a fini par croître. Avant de donner lieu à une société mécanique triste. Après la gloire rouge et jaune des hêtres et des érables du Vermont, je suis descendu dans les villes sordides et manufacturières du New Hampshire et du Massachusetts. Le bonheur ne s'installe pas nécessairement dans les terres les plus fertiles, les plus favorisées par le climat, mais plutôt dans celles où une longue lutte d'adaptation entre l'homme et son environnement a fait ressortir les meilleures qualités des deux, dans lesquelles le paysage a été formé par de nombreuses générations de la même race, le paysage lui-même agissant fortement sur ces gens, formant leur caractère. Et ces territoires de la Nouvelle-Angleterre, dans ces territoires, j'avais l'impression de constater un succès humain si maigre et transitoire que tout cela me semblait plus désespéré que le désert. Donc, sa critique des États-Unis est aussi forte que jamais, mais je pense que ce voyage américain a dû réveiller une mémoire américaine, et c'est cela qui ressort du poème Les Trois Sauvages, dont je vais lire maintenant un autre extrait, plus près encore du paysage. Le sel saupoudre l'églantine, le brouillard hante les pins. Le mugissement de la mer et l'aboi de la mer sont des voix différentes qu'on entend souvent de concert. La plainte parmi les cordages, la menace et la caresse de la vague qui se brise sur l'eau, le grondement lointain dans les dents des granites et l'alarme gémie par le cap qui s'approche sont tous voix de la mer et la géniarde que la houle soulève et que l'on double et la mouette. Et sous l'oppression du brouillard silencieux, la cloche tinte. Mesurant un temps qui n'est pas notre temps, un temps sonné par la houle sans hâte, un temps plus ancien que le temps des chronomètres, plus ancien que le temps calculé par des femmes inquiètes
qui reste éveillé, supputant l'avenir, cherchant à dévider, à démêler, à débrouiller pour les recoudre l'un à l'autre, le passé et l'avenir, entre minuit et l'aube, quand le passé n'est plus que l'heure, quand l'avenir est sans avenir, avant le quart du matin, quand le temps arrêté se fait interminable, et que la houle marine, qui est et qui était dès le commencement, teinte la cloche. Voici le même texte en anglais. The salt is on the briar rose, the fog is in the fir trees. The sea howl and the sea yelp are different voices, often together heard. The whine and the rigging, the menace and caress of wave that breaks on water, the distant rote and the granite teeth, and the wailing warning from the approaching headland are all sea voices, and the heaving groaner rounded homewards in the seagull. And under the oppression of the silent fog, the tolling bell measures time, not our time, rung by the unhurried groundswell, a time older than the time of chronometers, older than time counted by anxious, worried women lying awake, calculating the future, trying to unweave, unwind, unravel, and piece together the past and the future between midnight and dawn, when the past is all deception, the future futureless. Before the morning watch, when time stops and time is never ending, and the groundswell that is and was from the beginning clangs the bell. Là, il me semble, nous approchons d'un territoire qui est plus américain qu'anglais, ou qui est peut-être ni anglais ni américain, et surtout où il n'y a pas d'idéologie de religion toute faite. Et j'ai réservé pour la fin de cette conférence et de ces lectures un poème intitulé Marina. Pourquoi ? Parce que ce poème me semble basé beaucoup plus sur une quête et un questionnement que sur une structure de croyance. L'épigraphe à ce poème dit ceci en latin, Quis hic locus, quae regio, quae mundi plaga. Quel est ce lieu ? Qu'est-ce que cette région ? Cette plage du monde ? Question fondamentale. Voici le poème en français. Quis hic locus, quae regio, quae mundi plaga. Quelle mer, quelle rive, quel roc gris, quelles îles, quelle eau lapant la proue, quelle senteur de pain, quel chant de grives dans la brume, quelles images s'en reviennent, ô ma fille. Ce qui aiguise le dent du chien signifiant mort, rutile des gloires de l'oiseau-mouche signifiant mort, croupissent dans la soude des repus signifiant mort, subissent l'extase des animaux signifiant mort, sont devenus immatériels, réduits à rien par une brise, une bouffée de pain et la brume du champ, par la grâce dissoute dans le lieu. Quel est ce visage, moins clair et plus clair, le pouls dans le bras, moins fort et plus fort, donné ou bien prêté, plus loin que les étoiles et plus proche que l'œil, murmure, petit rire entre les feuilles et pas pressé sous le sommeil, là où les eaux se mêlent. Le beau pré craqué par le gel, la peinture craquée par le chaud, j'ai fait ceci, j'ai oublié, je me rappelle. Le gréage qui flanche et les voiles pourries entre certains joints et cet autre septembre. J'ai fait ceci à mon insu, mi-conscient, inconnu, mien. La virure de Gabor est faite haut, les coutures veulent de l'étoupe. Et voici cette forme, ce visage, cette vie vivant pour vivre en un monde de temps par-delà moi. Puissais-je résigner ma vie pour cette vie, ma parole pour l'imprononcer, l'éveil, les lèvres ouvertes, l'espoir, les nouveaux navires. Quelle mer, quelle rive, quelles îles près mes vergues, et l'appel de la grive au travers de la brume, ma fille. Marina, quis hic locus, quae regio, quae mundi plaga.
What seas, what shores, what grey rocks and what islands, what water lapping the bow and scent of pine and the wood thrush singing through the fog, what images return, O my daughter? Those who sharpen the teeth of the dog, meaning death. Those who glitter with this glory of the hummingbird, meaning death. Those who sit in a sty of contentment, meaning death. Those who suffer the ecstasy of the animals, meaning death. Are become unsubstantial, reduced by a wind, a breath of pine and the wood song fog, by this grace dissolved in place. What is this face less clear and clearer, the pulse in the arm less strong and stronger, given or lent, more distant than stars and nearer than the eye? Whispers and small laughter between leaves and hurrying feet under sleep, where all the waters meet. Bowsprit cracked with ice and paint cracked with heat. I made this, I have forgotten and remember. The rigging weak and the canvas rotten between one June and another September. Made this unknowing, half-conscious, unknown, my own. The garboard straight leaks, the seams need caulking. This form, this face, this life, living to live in a world of time beyond me. Let me resign my life for this life. My speech for that unspoken, the awakened, lips parted, the hope, the new ships. What seas, what shores, what granite islands towards my timbers, and wood thrush calling through the fog, my daughter. La question que nous laisse l'œuvre de T.S. Eliot, à mon sens, est comment trouver des voies pour sortir de la terre gaste, qui est toujours la nôtre. Comment trouver des voies de sortie? Eliot, comme on vient de le voir, a répondu en termes d'une culture basée sur la religion, une culture religieuse. Dans ses derniers poèmes, j'ai suggéré, je propose que nous avons le début peut-être d'autre chose. Et j'insisterai beaucoup sur ce vers, ce fragment. La grâce dissoute dans le lieu. Il me semble que ce qui est nécessaire aujourd'hui, en poésie et pour notre culture, c'est-à-dire pour une vie un peu plus fondée, donc un peu plus jouissive, il me semble que ce qui est nécessaire, c'est une redécouverte de la terre, des lieux, et la création de quelque chose que j'aimerais intituler une poétique du monde. Mais là, nous sommes déjà sur d'autres voies que celle d'Eliot, mais sur cette notion-là, cette notion de poétique du monde que j'aimerais terminer ce soir. Merci de votre patience, j'ai assez longtemps parlé, je crois, et merci de m'avoir écouté.